Vous écoutez RTL.
Nous sommes maintenant en direct et en public sur RTL avec notre invité Philippe Jarouski. Bonjour Philippe, je vais vous présenter de façon un peu plus élaborée dans un instant. Mais d'abord, je vais vous présenter tous nos petits camarades. Non seulement vous chantez, mais vous faites aussi chanter. En tout cas, ce matin, vous allez faire chanter Old Olaf, juste après le journal de midi, comme tous les jeudis.
Ravi, et j'ai un invité exceptionnel avec moi aujourd'hui.
C'est qui ?
Ah ben, je vous le découvrirai tout à l'heure, évidemment. D'accord, c'est une surprise pour Philippe.
Très bien. D'accord. Et vous avez créé une chanson pour Philippe ?
Bien entendu.
Ah oui, formidable.
Enfin, c'est mon invité qui va le faire.
D'accord. Attention.
Rien fait,
j'ai rien compris, mais je sens que ça va être amusant.
Sur les merveilles de la radio.
Il y a une surprise.
Tant que ça ne coûte pas plus cher.
Oui, au fond, ça ne me coûte pas plus cher. Rassurez-moi.
Ah ben, j'ai fait un emprunt à RTL pour financer notre invité.
À la une, Édouard Dutour vous dira tout ce qu'il a lu à notre place dans la presse People.
Bonjour à tous.
Vous avez vu des choses intéressantes.
Oui, on va parler de famille, de grandes familles et de grosses fortunes aussi.
Ah, très bien.
Que des choses qui nous intéressent.
Que des amis, Stéphane. Que des amis.
Vous savez, il vaut mieux les fréquenter que.
Il faut que nous fréquenter.
Ça sert à rêver, les célébrités.
Il ne faut pas venir pour les anniversaires, ça coûte cher.
Régis Maillot, vous entendez sa douce voix. Il est avec nous. C'est un peu notre ténor, mais enfin, vaut mieux qu'il ne chante pas.
Non.
Alors, la fausse note dans l'émission, c'est lui. C'est Éric Dussard.
Bonjour à tous.
C'est pas une voix de tête.
Vous êtes un peu notre Willy Rovelli.
Alors, pour la coiffure, évidemment. On parlera du retour des 7 péchés capitaux, l'émission de Julien Courbet ce soir, qui fait son retour sur C8 après avoir été diffusée sur TF1. Oh. Et on parlera de Luxure, justement, avec un membre de cette équipe qui a enfin osé témoigner publiquement des pratiques de certaines personnes. Qui dirige cette équipe. Vous en saurez davantage tout à l'heure.
Eh ben dis donc, ça c'est du teaser. On mélange classique et variété dans le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Consacré à ces chansons qui se sont inspirées de Beethoven, de Chopin et de quelques autres. Et le cadeau pour l'auditeur ou l'auditrice qui aura choisi la bonne équipe. Alors David et moi c'est l'équipe SB, Philippe et moi c'est l'équipe SB, le reste du monde c'est le reste du monde, RM. Un séjour offert par weekendes.fr, je suis des courts séjours sur internet. C'est au Mas des Herbes Blanches à Joucas dans le Luberon. Mais pour autant, il aura fallu au préalable envoyer un SMS avec le mot bonheur au 74 900 ou au 3210. C'est aussi une possibilité. À 11h40, notre invité a un grand nom de la pâtisserie. Eh oui, vous le connaissez.
Alors,
je dis, à votre avis,
Pierre
grand...
Hermé, moi je dis.
Non.
Michalak.
Non. Michalak, oui. Bravo.
Plus mignon comme ça.
Ah bah oui, non.
Tu gagnes un éclair au chocolat.
C'est pas parce très que... malin de l'avoir au téléphone, on préfère l'avoir en studio, il apporte toujours des trucs.
Non, parce qu'en ce moment, il est au régime. Oui. Je l'ai vu. Alors qu'il prépare le gâteau. Il est au salon du chocolat qui ouvre ses portes demain.
C'est vrai.
Je vous présente notre invité. Presque malgré lui, l'ancien élève du collège de Sartrouville qui a découvert sa passion pour la musique grâce à un prof qui lui faisait écrire et interpréter des chansons est devenu une star internationale et le roi du monde dans le chant vocal des contre-ténors. Ses voix magiques et miraculeuses dans la lignée des Farinelli, Carestini, Porpora qui seuls savaient soigner les maux de tête des puissants. Couronné depuis ses débuts de plusieurs victoires de la musique, explorant les partitions oubliées de la musicologie baroque, il ne cesse de partir vers de nouvelles aventures pour permettre à sa voix d'or de réaliser de nouveaux exploits. Après avoir interprété, au plus haut des cieux, les airs composés par Handel, Bach, Vivaldi, Pergolèse, Monteverdi, Caldara ou Scarlatti.
Oui, Scarlatti,
sans oublier un joli pas de côté dans le répertoire des mélodies françaises, il s'est lancé un nouveau défi en chantant les cantates sacrées de Bach et de Telemann dans la langue de Goethe et de Schiller qu'il a enregistré. Ça veut dire en allemand, hein, je le dis pour...
Avec votre accent espagnol, c'est toujours assez bien.
Je le dis pour Éric Dussard parce qu'il se demandait... Quand on dit la langue de Goethe, ça veut dire l'allemand.
Je croyais que je vous écoutais en plus. Ah ouais.
Qu'il a enregistré avec l'orchestre baroque de Fribourg en Brisgau dans la Forêt Noire.
Et qui lui vaut...
Pardon ?
Oui, c'est pas le salon du chocolat, non. Il n'a rien à voir avec le salon du chocolat.
Quelqu'un comprend quelque chose à ce portrait.
Laissez-moi parler.
Non.
Qui lui vaut en Allemagne d'être désigné comme chanteur de l'année. Eh oui, c'est ça.
Ah non.
Non.
Alors, je suis chanteur de l'année, mais pour les mélodies françaises, ils n'ont pas osé quand même.
Ah bon, quand même. Oui. Ah ben non, vous allez être chanteur de l'année, là, avec les mélodies.
Mais récompensé par les Allemands, quoi. S'ils trouvent que mon allemand est suffisamment correct.
Oui, il est très correct. Avec nous ce matin sur RTL, l'un des rares artistes lyriques à vendre des albums comme des petits pains chauds, pas seulement au chocolat, j'ai nommé Philippe Jarouski. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un contre-ténor. Eh bien, je vous ai proposé une interview contre, tout contre. Ben voilà.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous retrouvons Philippe Jarouski pour son album Telemann et Bach, les cantates. Et alors, je vous ai proposé une interview contre. Qu'est-ce qui fait contrepoids à votre notoriété?
Qu'est-ce qui fait contrepoids à ma notoriété?
Vous arrivez à mener une vie normale à...
Bah oui, c'est ce que j'allais dire, ma normalité, ma vie de tous les jours. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils fantasment les vies des chanteurs. Oui, oui, oui. Et des...
Non, mais c'est vrai quand vous êtes, par exemple, quand vous arrivez en Espagne, en Allemagne, et tout d'un coup, vous êtes reçu partout.
Oui, c'est vrai.
Comme une star.
Oui, c'est vrai qu'on est un peu sous-shooté. Nous, on a un peu des vies de bébé, en fait, des vies d'enfant. Hein. On a notre nom à l'arrivée à l'aéroport.
C'est un peu comme Miss France.
Ça dure un peu plus longtemps.
Oui, c'est ça qui est bien. En voiture, vous êtes plutôt discipliné ou contrevenant?
Je suis une catastrophe au volant. J'ai mis 4 fois pour avoir mon permis. J'ai jamais reconduit depuis.
C'est une chance pour nous. Est-ce que comme Pierre Dac, vous êtes d'une façon générale pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour?
Il y a Edouard, je vois.
Edouard qui se dit attends, est-ce que j'ai
bien
compris?
C'est un petit peu compliqué pour un chanteur.
Pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est
pour. C'est un peu anard, quoi.
C'est la posture de l'humour.
Oui.
Est-ce que vous aimez les contretemps?
Ah oui, les contretemps. Et si, les contretemps en musique. On pense souvent d'ailleurs la musique en contretemps. Pour éviter de marquer trop les temps, justement.
Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Parce que nous, les contretemps, on n'aime pas, parce qu'on aime à la radio, chaque chose soit à son temps. Oui. Vous aimez le vrai bois ou le contreplaqué?
Là, quand même.
C'est très bon ce matin, Stéphane.
C'est pointu.
Je vais m'engager dans la réponse. Je vais proposer le vrai bois.
Le contre-touriste, en fait. On peut le dire.
Et vous aimez les contre-pétrés?
Oui, mais je suis pas très doué.
Non. Je pourrais commencer à le dire en tant que contre-ténor. Est-ce que...
Tu as déjà fait des rencontres? Bon, on a plus que ça. Désolé.
Vous avez déjà eu l'impression dans votre carrière de faire de la contrebande?
De la contrebande? Bach, Vivaldi, tout ça, ça ne s'échange pas sous le manteau.
Un petit Vivaldi sous
Qu'est-ce
le manteau.
Qui peut vous contrarier dans une journée?
Oh là là, il est en pleine forme. Me contrarier. Qu'est-ce qui peut me contrarier? C'est que si je me lève le matin et que j'ai pas de voix du tout.
Ouais. Ah oui, ça peut arriver ça.
Ah oui, ça m'est arrivé au mois de juin. Je me suis réveillé, j'avais pas un son. Et j'ai dû annuler, reporter des concerts.
Ouais, c'est horrible. Ouais.
Oui, c'est un petit peu contrariant.
Vous paniquez à ce moment-là?
Pas trop. Bah, de toute façon, ce qui est bien, c'est que quand on n'a pas de voix du tout, au moins les choses sont claires. Ouais. Alors on ne se pose pas de questions.
Ça, c'est ce qu'on appelle.
Sauf qu'on ne peut même pas annuler.
Ce qu'on appelle le syndrome d'Hidalgo.
On ne peut pas annuler.
On ne peut rien faire.
Ça donne du flot, plutôt.
De quoi est-ce que vous contrefoutez?
De ce que je me contrefous.
Ce genre d'interview, par exemple.
Oui.
Mais il peut. Oui, bon,
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Non, mais je crois que quelqu'un a répondu très bien pour moi.
Est-ce qu'on a dit sur vous des contre-vérités? Que vous pourriez.
Non, pas trop, en général. Non, on dit plutôt des choses correctes. Que vous avez dit que j'étais le roi du monde, ça me plaît beaucoup.
Oui, c'est vrai.
Quelque chose pour contrebalancer, peut-être.
Merci, Eric, de venir, de rajouter. Bon, ce que je vous propose, c'est maintenant de parler un peu plus sérieusement, quand même, de ces cantates sacrées de Bach et de Telemann avec Philippe Jarouski.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes avec Philippe Jarouski pour son album Bach et Telemann. Sacred cantatas, les cantates sacrées. Bah oui, parce que maintenant les albums, on les fait dans toutes les langues, au fond.
Oui, hein, c'est ce que j'essaye de faire.
Anglais, français, allemand.
Oui. Alors évidemment, l'italien, c'est la langue peut-être de l'opéra, mais l'allemand, évidemment, c'est une langue très. Il y a beaucoup de choses à chanter en allemand et j'avais pas beaucoup fait jusque-là.
Jamais. Vous le dites, c'est votre premier album en allemand.
C'est mon premier album en allemand. Oui. Et c'est mon premier album aussi dédié à Bach, qui est un compositeur.
Oui.
Que j'ai mis pas mal de temps à aborder.
Il est difficile ou...
Oui, c'est difficile. C'est un compositeur qui écrit pas forcément pour la voix. La musique, on le sait, c'est un des monuments de la musique occidentale. Et c'est une musique qui est quasi parfaite. Quand on se met à la chanter, on se sent pas forcément. Moi, je sais que j'étais pas forcément à l'aise au début.
Mmh. Mais cela dit, par rapport
oui, à l'oral,
vous avez très mauvaise note au bac.
L'allemand, vous le parliez déjà? Vous avez appris à l'école?
Oui, je l'ai appris à l'école. J'avais fait, comme on dit, allemand première langue.
Ça aide.
Ça aide quand même. Oui, oui. Et puis, j'avoue que j'aurais du mal à chanter une langue que je comprendrait pas du tout.
On connaît des chanteuses qui le font. Hein.
Oui, oui.
Comme
oui.
Ça. Surtout vous.
Oui.
En phonétique.
Mireille Mathieu a beaucoup chanté en phonétique.
En phonétique. Ouais.
En japonais surtout. Oui. Stéphane, vous parlez bien l'allemand, vous. Stéphane.
Mais même en français, elle comprenait pas les paroles.
Non, arrêtez. Je l'appelle tout de suite pour lui dire ce que vous avez dit. Non, elle écoute peut-être. Alors, non, quelle est la langue la plus difficile à chanter?
Curieusement, pour moi, c'est l'anglais. Parce que l'anglais, je trouve que chaque mot a une prononciation. Je cite souvent le mot pleasure.
Ouais.
Pleasure.
Ouais.
Ça s'écrit P-L-E-A-S-U-R-E. Mm-hmm. Et pour un français, on a toujours tendance à faire pleasure ou finir un truc. Et donc, chaque mot, je trouve, s'apprend en fait en anglais. Mm. Alors que dans l'allemand, il y a une logique quand même. Un peu plus.
Oui, c'est assez logique, bon, même si le verbe est à la fin.
Voilà.
En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes une star en Allemagne, je le disais, c'est vrai, ils vous ont remis le Eco Prize. C'est une victoire de la musique quand même. Oui. Voilà, vous êtes sacré chanteur de l'année. Et là, vous allez inaugurer à Hambourg la nouvelle philharmonique.
Oui, formidable, incroyable. C'est vraiment quasiment un scandale en Allemagne parce que je crois que c'est une salle qui a pratiquement 8-9 ans de retard. Ils ont eu des gros problèmes sur les travaux.
Ah bah chez nous aussi.
À Paris aussi. Hein,
voilà. Ceux qui sont occupés de la canopée à Paris.
Mais vraiment, c'est bien pire. Et du coup, ça a coûté énormément d'argent. Mmh. Et par contre, j'ai eu la chance d'y chanter a cappella il y a quelques mois. Et ça va être incroyable.
Il paraît que l'acoustique est incroyable.
Et hallucinante. Oui. Ça va être une des plus belles salles du monde.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que les Allemands sont plus réceptifs à la musique
À la musique classique, j'ai l'impression qu'effectivement, ça fait partie plus du... C'est pas ringard en Allemagne de dire qu'on aime la musique classique. On va écouter peut-être un peu plus de tous les genres de musique en Allemagne. Et effectivement, on sait que les Allemands, par exemple, chantent beaucoup plus quand ils sont enfants. Ils ont vraiment cette culture-là. Ouais.
Quand ils sont ensemble aussi. Hein. Non. Il y a une tradition.
Ah, je vous vois. Ah, c'est arrivé, voilà, les chants allemands. cela dit, vous avez réuni donc Telemann et Bach. Bach, il n'a rien fait à côté de Telemann en cantate.
Oui, il a rien fait.
Il a fait 300, il en a fait 2000.
Il était obligé d'en faire une par semaine quand même. Hein.
Oui, en fait, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, mais à l'époque, on n'aimait pas écouter la... On voulait toujours écouter la nouvelle musique, soit à l'opéra ou à l'église. Il fallait toujours composer des nouveaux opéras. Et effectivement, Telemann, je crois que ce que je voulais faire, c'est que Telemann, on connaît le nom, mais il n'y a pas de tube. Il n'y a pas de grands airs comme chez Bach, Handel, Vivaldi, où on connaît tous au moins une dizaine d'airs qu'on peut siffler. Telemann, non, mais par contre, sa musique est sublime. Et c'était un peu l'idée du disque, c'est de faire découvrir Telemann par le biais de Bach.
Mmh. Et justement, qu'est-ce qui a fait le génie de Telemann? Alors, Telemann, d'abord, il écrivait à la chaîne, c'est-à-dire toutes les semaines, hop, une nouvelle cantate pour l'église. Et il pissait de la partition.
C'est éclaté, hein, Telemann. C'est éclaté.
Toute l'expression pisser dans un violon.
Et comme ça. Pisser de la partition.
On s'imagine pas, mais effectivement, les compositeurs de l'époque, ils composaient pour manger. Quoi. Ils avaient une obligation de rendre
Une œuvre. Ils étaient attachés à une église.
Exactement. Et ils étaient. Ils étaient salariés, oui. Et par contre, ce qui est intéressant dans sa musique, c'est qu'à chaque. On sent que c'est quelqu'un qui cherche toujours. Il écrit jamais la même chose.
C'est ça,
et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il arrive.
Oui, parce qu'il aurait eu tendance à se reprendre, à faire du copier-coller.
Oui, parce que Vivaldi même avait tendance de temps en temps à reprendre des airs qu'il avait.
Parce qu'au fond, c'est la même prière, je dirais. Au bout d'un moment.
On sent, Stéphane, que vous n'êtes pas très attaché à une église, vous, comme
si,
ça.
Si, mais vous voyez, nous, c'est chaque fois la même prière.
Oui, mais là, il voulait écouter une musique
une
différente.
Nouvelle
dessus.
Chaque fois,
voilà, il voulait que quelque chose change, et c'était souvent la musique.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski pour son superbe album Bach, Telemann, les cantates sacrées. Et alors lui, les cantates et tout ce qui est sacré, c'est
moi,
pas trop son univers.
Bach, c'est le bac à shampoing. Voilà, je suis plus dans ce registre. Où je lis la presse People.
Voilà. Exactement. Édouard Dutour à la une.
Les People de la semaine d'Édouard Dutour sont à la une.
Alors cette semaine, on va parler, je vous l'ai dit Stéphane, au début de l'émission, de trois grandes familles qui sont beaucoup plus brioches, voire brioches dorées, que chocolatine à 15 centimes. Alors ils sont riches, ils sont célèbres, ils ont plein de problèmes. Bienvenue chez chez les Bernes. Eh bien oui, parce que Stéphane, on va rentrer dans votre intimité, mais vous étonnez pas. Mais non, je plaisante. On va commencer par les Grimaldi, vos amis. Il y a du nouveau sur le rocher. C'est la même chose.
Les cousins.
Ne vous inquiétez pas, on va parler du rocher, du prince Albert qui a racheté la maison d'enfance de Grâce Kelly. Alors Bébert, hein, ou SAS, son Altesse Sérénissime, comme on l'appelle, chacun l'appelle comme il veut, a déboursé environ 750 000 euros pour cette demeure sise à Philadelphie et qui avait été construite par le père de Grace Kelly. J'ai appris qu'il était champion olympique.
Oui,
et puis qu'après, voilà, et qu'après, il avait fait fortune dans le bâtiment, un sport bâtiment, je me suis dit un programme très Monaco, comme quoi tout se tient. Alors il a déclaré je suis très heureux d'avoir sauvé la maison, j'ai hâte d'y emmener les jumeaux. C'est une maison qu'il veut transformer soit en bureau de la Fondation Grâce de Monaco ou un lieu d'exposition. Moi j'ai deux ou trois autres idées.
Ah oui ?
Ah bah oui, pour cette maison qui pourrait être peut-être plus utile. Alors d'abord, peut-être pour que Albert se fasse une petite garçonnière, parce que quand même, faut se faire des mamans. Elle a pas l'air commode, elle a pas souri depuis le mariage, donc ça va être tous les jours.
Et c'était pas le rigolo.
Hein, Stéphane, comment, si comment ça va ? Comment ça va, Charlène ?
Ça va bien.
Elle va bien ?
Ça va mieux ?
Ça va mieux ? On l'embrasse. Bon, et puis c'est vrai qu'Albert a déclaré qu'il aimerait y emmener ses jumeaux. Moi, j'ai pensé aux autres enfants, hein, parce que comme on le sait, il a des aînés. Albert, dont la petite Jasmine Grace, qui vit aux États-Unis, ça pourrait peut-être lui faire un pied à terre. Et puis, en ce moment, dans la famille aussi, ça bouge, puisque dans la presse, chez le coiffeur, au bac à shampoing, pas le bac de Philippe Jarouski, j'ai lu que Charlotte était de nouveau célibataire.
Ah bon ?
Eh bien, oui, elle n'est plus avec son réalisateur italien.
Oh là là.
Donc, je me dis que si elle veut prendre un petit peu du recul, se reposer, ça peut être aussi à Philadelphie.
C'est sympa, Philadelphie ?
Bah oui, je crois que c'est une ville classique de la côte est des États-Unis. Hein. Stéphane, vous qui êtes, vous adorez les vieilles bicoques, vous adorez les princesses et le prince Albert, moi, je me dis, elle est pour vous, cette maison. Allez, deuxième grande famille tout aussi fortunée, bien plus fortunée même, les Wildenstein. Alors là, c'est dans Paris Match. Il faut absolument lire cet article qui est passionnant sur cette grande famille de marchands d'art à qui la justice reproche d'avoir dissimulé au fisc une partie de leur fortune. Le procureur leur réclame aujourd'hui, accrochez-vous bien, 566 millions d'euros, ça fait un gros troisième tiers quand même. Hein. Oui. Alors l'affaire est un peu compliquée.
Parce que Kervi, elle n'est pas dans le coin.
Voilà, je vais vous l'expliquer un peu en résumé. Donc Daniel Wildenstein meurt en 2001. Les deux fils Alec et Guy déclarent une succession de 54 millions d'euros alors qu'il est multimilliardaire. Hein. Donc en fait, on l'appelait l'homme aux 10 000 tableaux. Alors évidemment, les deux fils tentent d'échapper au fisc et d'écarter leur belle-mère Sylvia, un ancien mannequin d'origine ukrainienne. Avant cela, en 98... Alec, le fils, avait déjà eu des problèmes puisqu'il avait divorcé de sa femme, Jocelyne.
Oui.
Et le père avait dû faire un gros chèque pour qu'elle se taise sur les secrets fiscaux de la famille.
Elle avait déjà des problèmes pour parler, puisqu'elle avait tiré son visage.
Et puis à ce moment-là, Alec s'était remarié avec la jeune Loubia, une mannequin russe. Donc un gros tropisme familial sur le mannequin russe. Qui aujourd'hui, évidemment, elle aussi réclame la part du gâteau. Alors moi, j'adore cette famille. Il faut voir les photos dans le match parce qu'il y a un truc qui est génial, c'est que les femmes ressemblent au tableau cubiste qui est au mur, au Picasso qui est au mur, ou aux panthères, aux vraies panthères.
Aux vraies panthères.
Qu'on voit assises.
Elle voulait devenir panthère.
Elle voulait devenir panthère. On voit des photos dans leur ranch du Kenya où il y a des panthères assises sur le canapé. Ce sont des vraies panthères qu'on n'arrive plus à différencier avec leurs épouses russes. Voilà, l'histoire se lit comme un polar.
La cougar.
C'est Santa Barbara, mais avec des renoirs à la place du pétrole. Et c'est dans Paris Match. C'est un bon. Et puis pour finir avec une autre famille que vous savez j'aime beaucoup, c'est les Kardashians.
Oui.
Là aussi il y a des milliards, il y a de l'argent en jeu. Alors on n'avait pas revu Kim depuis la fameuse agression à Paris. Je l'ai retrouvé.
Ah, vous avez retrouvé Kim Kardashian.
J'ai retrouvé Kim Kardashian. Toute la Smala.
Elle se sent toute nue sans ses bijoux, non?
Elle s'est rhabillée, vous allez voir. Toute la Smala est allée mardi soir applaudir Kanye West, le mari de Kim, qui donnait un concert au sud de Los Angeles. Alors sur les photos volées, on aperçoit Kim entourée de nombreux gardes du corps, puisqu'évidemment maintenant elle est très très inquiète. Mais elle a changé, elle fait profil bas, peu de maquillage et elle a des habits, pour une fois, parce qu'elle sortait quand même peu vêtue. On l'a jamais vue autant habillée. Elle a décidé de se faire discrète.
Oui.
Comme dirait Jean-Pierre Chevènement. Alors, mais en revanche, il y a ses sœurs, elles qui n'ont pas changé. Donc, Courtney, sa sœur, elle est carrément seins nus, presque. Elle a une sorte de body transparent. Ouais. C'est quand même c'est un peu léger pour aller à un concert. Et puis, la petite sœur, le top modèle Kendall Jenner, elle n'a pas de bas, elle n'a pas de pantalon, pas de jupe, elle a juste un sweatshirt au ras de la boîte aux lettres. Donc, je me suis dit quand même, les sœurs n'ont pas tenu quand même les leçons de Kim. Et puis, il manquait quelqu'un. Eh bien, il manquait Kathleen, leur père, Caitlyn Jenner.
Qui est devenue leur mère.
Mais oui, mais
c'est leur père qui est devenu leur mère.
Exactement. Pourquoi Caitlyn était absent? Eh bien, parce que Caitlyn, leur père, est pour la quatrième fois grand-mère.
Ah,
ah ben oui, c'est la magie de la famille Kardashian. Et puis ouais, enfin, je vous propose.
Mais
à
pourquoi
tous...
ils n'ont pas des vies aussi ennuyeuses que les nôtres?
On va peut-être les opérer, hein, Stéphane, si vous voulez.
La prochaine fois, on parlera de la vôtre.
Ah non, non, non.
Allez, enfin, je conseille à tout le monde de lire aussi dans Le Point les confessions exclusives, les extraits des mémoires de Jean-Paul Belmondo. C'est du pur bébel, c'est du magnifique, le cinéma, la France qu'il regrette, Belmondo, les femmes. Voilà, c'est sympathique, c'est Belmondo, on l'embrasse.
Très bien, merci beaucoup. Édouard Dutour a réglé sur RTL.fr. Allez, on va retrouver Philippe Jarouski. Il y a le bureau de vérification des informations qui arrive. C'est vrai que tout ce qu'on dit.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
C'est vrai que... Alors, on va vérifier un certain nombre d'informations. Philippe Jarouski, c'est vrai que... Il y a vos récitals. Je vais d'ailleurs rappeler que le 3 décembre... Attendez, je vais vérifier
3 décembre.
C'est 3 décembre prochain à 20h, au concert au Théâtre des Champs-Élysées
à
Paris.
Et le 9 novembre à Lyon, je crois.
À Lyon, également. Exactement. Eh bien, il y a votre présence à l'opéra, dans les récitals. Il paraît que votre agenda est rempli pour les 7 prochaines années, c'est vrai?
Alors ça, j'ai lu ça, mais je ne sais pas qui a fait courir ça.
Votre
pour
agent
les 4 prochaines années, c'est déjà suffisant. Bon,
ouais. À les 4 prochaines années. On exagère.
Non, j'ai encore un petit peu de temps libre pour dans 6 ans, j'ai encore rien de prévu. Hein. Vous pouvez m'inviter à dîner, il n'y a pas de problème.
Ah, très bien.
C'est très différent avec François Hollande, qui ne sait pas, en revanche, ce qui va se passer après.
Ah ben non, 6 ou 7 ans, 6. Patrice.
Oui, alors il y a eu évidemment la mode des castrats au XVIIIe siècle, mais quand vous avez commencé, vous, il y avait très peu de contre-ténors, et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup trop, même, je dirais.
Oui, c'est vrai. Vous avez fait des ébules ou des enfants, je sais
c'est
pas.
Lié à deux choses, c'est qu'on chante beaucoup plus la musique baroque qu'il y a 20 ans. On a redécouvert tous les opéras de Vivaldi, on a découvert beaucoup, et il y a beaucoup d'opéras maintenant qui produisent des opéras baroques, et du coup il faut trouver des chanteurs. Donc pour effectivement pour remplacer les castrats, on a soit la possibilité de prendre une mezzo-soprano, une soprano, ou un contre-ténor. Donc du coup, effectivement, il y a de plus en plus de contre-ténors qui se lancent et qui font des très belles carrières.
Édouard ?
Oui, je voulais savoir, contrairement aux auteurs, compositeurs, interprètes de chansons, vous, il y a toujours une distance entre vous et ce que vous chantez, puisque ce n'est pas vous qui avez écrit le texte. Alors, est-ce que ça vous plaît de vous mettez dans la peau d'un personnage? Comment vous faites avec cette distance?
Oui, et puis souvent, le dialogue, on ne peut pas avoir le compositeur au téléphone. Il est mort il y a 300 ans, donc c'est un petit peu difficile. On ne peut pas lui demander comment il voulait qu'on interprète sa musique. Et c'est vrai que c'est la grosse différence, je trouve, entre nous, chanteurs d'opéra. On est des interprètes, on ne se crée pas un monde. On se crée pas tout un univers aussi, parce que souvent les chanteurs pop se créent au-delà des chansons tout un univers, une personnalité. Nous, on est là au service de ces compositeurs avant tout.
Régis, Eric, peut-être.
Oui, il paraît que vous commencez à chanter à jeun le matin.
Oui, je me bourre la gueule juste après.
C'est ça.
Voilà.
Parce que c'est ce qu'on raconte.
Ça, je sens que ça va me poursuivre pendant quelques années. C'est ça que je commence à chanter à jeun et je finis complètement torché les
mais
concerts.
Ce qui est une grande différence avec Johnny. Sans plaisanter, il y a besoin d'une hygiène de vie particulière quand on est
pour la voix. Oui, mais non, quand j'ai des tournées de concerts, en général, je fais un concert tous les deux jours. Je voyage, je fais un concert, je voyage. Donc oui, il faut pas trop parler, il faut dormir beaucoup rien n'empêche de...
C'est sympa pour les gens qui vivent avec vous.
Oui, c'est pas très sympa pour moi aussi. Enfin, ce que j'essaye de faire, c'est vrai qu'au bout de 2-3 semaines, c'est un rythme qui est un petit peu... Il faut de temps en temps faire une petite pause et puis ouvrir une bonne bouteille de temps en temps.
C'est vrai que vos premiers pas de chanteur, vous les avez fait en interprétant des génériques télé.
Oui.
Oui, lesquels?
Enfin, j'avais 2 ans et demi, 3 ans.
Ah ouais, déjà précoce.
Ah oui, j'étais précoce.
C'était quoi? Alors, c'était Chapi Chapeau?
Non, je sais pas, mais c'est vrai que il paraît que je chantais tous les jingles, les pubs. C'est pas qui.
Ah, génial.
C'était bizarre. Bah, je le fais plus.
Paul Delaf.
Ouais, Philippe, c'est vrai que on l'a dit, vous êtes booké pour plusieurs années à l'avance, mais est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas du tout, vous n'appréciez pas de dire ce que vous allez faire par crainte que ça se fasse pas, ou alors qu'on vous pique peut-être l'idée
Oui, parce que le problème, c'est que si par exemple je annonce que je vais enregistrer tel morceau et le temps de l'enregistrer, le temps de le produire, de le mixer, de le masteriser, de le faire sortir, c'est des fois 1 an, 2 ans après. Donc oui, on essaye de garder un petit peu des petits secrets. Et puis c'est bien aussi que voilà qu'on garde quelques petites surprises de temps en temps. Aussi.
Mais c'est vrai que vous allez ouvrir une académie de scène musicale sur l'île Seguin.
Ah oui, ça, ce n'est pas une intox, c'est vrai. C'est une grande aventure qui commence. Ça fait longtemps que j'avais le projet de faire quelque chose de transmettre un petit peu. Et on va intégrer ce magnifique bâtiment qui ouvrira ses portes dans quelques mois, la scène musicale sur l'île Seguin, là où il y avait les anciennes usines Renault. Oui. Et ça va être une bien belle aventure.
Donc vous préparez votre conversion, en fait.
Professeur. Oui, déjà.
Vous y pensez de temps en temps?
Ah oui, j'y pense tout le temps, parce qu'une voix...
C'est fragile.
Oui, on ne sait pas. On sait que l'âge d'or d'une voix, c'est, on va dire, peut-être entre 25 et 50 ans. Et après, on ne sait pas.
Est-ce que c'est que du bonus. Plus fragile que d'autres?
Alors non, ça, c'est vrai que souvent, on pense toujours que les contre-ténors ont une voix plus fragile qu'un ténor ou un baryton.
C'est pas vrai. Hein.
Ça dépend le rythme aussi de sa carrière. Ça dépend si on chante des choses qui sont adaptées à sa voix, tout simplement.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski pour son album Bach et Téléman, les cantates sacrées. Puis il y a donc à la fin du mois, c'est le 29 novembre à Lyon et le 3 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Alors, est-ce que vous aimez le chocolat?
Ah oui, j'adore le chocolat. Ouais. Chocolat noir,
c'est le meilleur.
Celui à 15 centimes.
Salon du chocolat, Back to Chocolate. Le 22e Salon du chocolat ouvre ses portes du 28 octobre au 1er novembre, porte de Versailles. C'est dégustation assurée pour tout le monde. Nous avons un invité au téléphone, c'est une surprise, c'est Christophe Michalak. Le roi de la pâtisserie, qui publie des livres magnifiques d'ailleurs, il faut le dire, hein, et formidable. Bonjour Christophe.
Bonjour cher Stéphane, comment ça va?
Oh, bah, superbe, quand je sais que je vous ai au téléphone. C'est vous qui avez été choisi alors pour fabriquer, pour faire ce gâteau de la soirée inaugurale du Salon du Chocolat. C'est quoi ce gâteau?
En fait, tout simplement, c'est Nestlé fête les 150 ans de cette belle entreprise et on m'a demandé de faire un gâteau un peu rock'n'roll. En jonglant sur le chocolat et voilà quelque chose qui envoie, enfin qui jette quoi, qui est assez spectaculaire et voilà, on aime bien faire ce genre de choses donc on a répondu présent.
D'accord, mais c'est avec quel chocolat?
L'idée c'est de faire une pièce superposée avec des polystyrènes recouverts avec une glace royale, avec plein de décors qu'on sait faire et l'idée c'est que sur cette pièce on va positionner des mousses au chocolat dans une pâtisserie particulière qui s'appelle les Cosmiques que je réalise moi tous les jours dans mes pâtisseries et en fait tout le monde pourra manger une mousse au chocolat pralinée avec plein de pétillants à l'intérieur, des trucs super bons.
Alors le Salon du Chocolat est devenu une institution, hein, c'est la 22e édition. Est-ce que pour vous qui êtes un grand pâtissier, est-ce que c'est un événement qui compte?
Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que plus on parlera du chocolat, plus on mettra en valeur, plus on fera du bon chocolat et plus le commun des mortels en fait pourra justement aller dans ce salon, s'enrichir, goûter, déguster et vérifier que le chocolat français, un, est le meilleur du monde et deux, son palais va s'améliorer et automatiquement
il faut aller vers
un gâteau au chocolat.
Exactement, aller chaque fois vers plus de qualité parce que c'est vrai qu'avant on aimait un chocolat qui était assez médiocre, il faut bien le dire, qui n'était pas d'ailleurs d'autres pays font du chocolat qui n'est pas vraiment du chocolat, ce sont des pralines ou des préparations chocolatières, mais nous on aime le vrai chocolat en fait maintenant.
Totalement. Alors après, les goûts sont c'est très particulier parce que c'est difficile de justifier que tel ou tel chocolat est meilleur. Ouais. Nous on a la chance d'avoir des entreprises fabuleuses en France, notamment Valrhona qui est pour moi le meilleur chocolat français, l'un des meilleurs en tout cas, et qui réalise dans la Drôme absolument et qui réalise un chocolat exceptionnel, qu'il soit noir, lait. Même blanc, là c'est la nouvelle mode en ce moment, c'est le chocolat Dolce, c'est un chocolat blanc qui a été caramélisé. Mmh. Voilà, tout ce genre de chocolat à croquer est fabuleux. Après, dans un bonbon, lorsqu'il est enrichi, lorsqu'il est garni avec un praliné, c'est aussi magnifique. Mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, lorsque j'ai commencé mon métier, on me disait, tiens, va te former en Belgique pour apprendre les bonbons pralinés belges ou suisses. Et maintenant, bien évidemment, on nous explique qu'il faut rester en France pour apprendre
Le vrai métier, bien sûr, à faire du bon chocolat. En tout cas, ce qui est plus le moral des Français baisse, plus on a envie d'aller au salon du chocolat.
C'est vrai que ça,
parce qu'on peut rappeler que le chocolat est excellent pour la
diversité. Antidépresseur, ouais.
Ah, moi, je
suis à journée de la dépression aujourd'hui.
Non, ah oui, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Oui, alors Édouard Dutour a une question pour.
Oui, moi je voulais savoir, c'est vrai que Monsieur Michel, qu'on vous a connu dans des grands palaces parisiens, et le salon du chocolat, c'est un événement très populaire. Est-ce qu'on peut réconcilier les deux? Est-ce que le très bon chocolat, c'est accessible à tous.
Oui, parce que Jean-François Copé nous a dit que les pâtisseries de Christophe Michalak coûtaient entre 25 et 30 centimes d'euros. Ouais. C'est juste.
Aujourd'hui, on peut.
Ne demandez pas à Monsieur Copé de faire les prix.
Oui, bien évidemment, on peut manger du très bon chocolat à croquer, pas trop cher. Après, si on veut aller chez des artisans qui font un travail phénoménal et si on veut goûter des bonbons chocolat très raffinés où il y a une vraie touche artisanale, et ben le prix sera un peu plus en conséquence. Mais ce qui est tout à fait logique parce que c'est une qualité exceptionnelle, donc ça se mérite.
Alors, j'avais une dernière question parce que bon, il y a le salon du chocolat évidemment dont on veut parler et qui ouvre ses portes demain jusqu'au 1er novembre. Mais Noël se profile quand même. Vous allez créer une bûche particulière, une bûche au chocolat. Là,
Christophe. Oui, alors on va faire plein de bûches un peu rock'n'roll, mais surtout on a une bûche signature cette année qui s'appelle la bûche qui est iconique, hein, qui est en forme de vanne. Parce que voilà, je pars du principe que le Père Noël il est rock'n'roll de nos jours et il vend plus les gâteaux avec ses rennes, mais plutôt avec son van.
Une camionnette, quoi.
Une camionnette.
Avec des planches de surf.
Ah oui, avec des planches de surf. C'est Bryce de Nice.
Vous avez besoin de goûteurs, je pense.
Ah bah oui.
Oh, non, mais c'est... Ah, mais vous êtes mes invités. Comment vous
voulez. Eh ben voilà.
Très bien, on arrive.
Non seulement il est sympathique, mais en plus il a l'élégance, il est doué. Il est surtout très doué. Précipitez-vous. Merci Christophe Michalak. Je rappelle qu'il y a un nouveau livre aussi qui sort avec vos pâtisseries. Et c'est vrai que c'est parmi les meilleurs qu'on puisse goûter.
Ah, vous êtes adorable. Vous êtes aussi super gourmand comme moi.
Oui, très gourmand. Et j'aime surtout le chocolat. Donc rendez-vous. Vous m'y verrez. Hein, je serai à tous les stands au Salon du Chocolat. Moi, je goûte tout pendant le Salon du Chocolat. Je veux absolument. Ah oui. Alors voilà. Merci. Et c'est le Porte de Versailles, Hall 5 à Paris. Allez, on va retrouver maintenant Philippe Jaroussky, toujours les cantates. Et puis, alors, pour Téléman, Téléman, il y a l'homme de télé, Éric Dussard.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec deux retours pour le prix d'un.
Et oui, ce soir sur C8, notre camarade Julien Courbet va annoncer l'une de ses émissions cultes de TF1. Ça s'appelle 7 péchés capitaux. Et par là même, ce sera aussi le retour d'un de nos chouchous dans ce zapping, puisque pour illustrer l'orgueil, ils ont choisi un certain Dorian Rossini. Vous savez, celui qui se prend pour la réincarnation de Dieu, hein, rien que ça. Et ça fait un petit bout de temps que ça dure, c'était déjà le cas il y a 2 ans sur Énergie 12.
Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir et se contemple.
Merci Seigneur de m'avoir donné la chance d'être comme toi. Je m'aime Seigneur et je t'aime aussi, car on est un dans l'autre, on est l'un dans l'autre, on est parfait. Je t'aime Seigneur, merci à toi.
Qu'est-ce que vous avez différent de Michael Vendetta par exemple ?
Moi je suis la réincarnation de Dieu, tout simplement. Le Dieu, l'incarnation de Dieu. Même Jésus, il avait Facebook, il n'aurait pas eu autant de likes que moi.
Et alors vos citations sont souvent tournées vers la religion, et même là aujourd'hui on voit avec un chapelet. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi cet
amour
comme
ça ? Je suis très croyant, je suis très croyant en moi-même.
Ah bah ça vaut mieux qu'il croit en lui-même, hein, parce que personne ne le fera à sa place. Hein. Il nous avait manqué ce Dorian. Vivement ce soir, son retour sur C8.
Vous moquez, mais c'est peut-être le vrai.
Peut-être que c'est lui, oui. Hein, bah, il a plus de likes sur Facebook d'ailleurs. Donc Dorian, dans les 7 péchés capitaux, enfin lui à mon avis, il doit plutôt dire les 7 péchés capitales. Hein. Vous voyez, il ne faut pas oublier qu'il a pris les mêmes cours de français que les Marseillais de W9.
Pardon ? Parle bien avec ta bouche, l'aide de ma mère, parce que je veux pas rigoler avec toi longtemps, t'as compris ? T'as compris ?
Ouais.
Elle monte directement sur ses grands chevals.
Elle est directement montée sur ses grands chevals, Stéphane. Elle a gonflé sur ses pectorales, tout ça, on aurait dit des animaux, les deux. Attention. C'était terrible. C'était vraiment très violent. Alors, le meilleur moyen pour éviter de monter sur ses grands chevals, ben, c'est de se détendre en pratiquant, par exemple, le yoga. Tenez les équipes de quotidien sur TMC ont rencontré un adepte de cette discipline au salon du yoga qui se tenait à Paris. Alors lui, s'il est zen, à mon avis, ce n'est pas que grâce aux exercices.
Vous prenez un peu des drogues ou pas ? Vous fumez un peu d'herbe ?
Oh, ça m'arrive, mais une fois ou deux par an seulement. C'est vraiment dans les rares occasions, avec la famille, à Noël. Ou...
C'est vrai que c'est une belle occasion Noël, hein, pour faire tourner un pétard à table. Tiens, papy, tire là-dessus, tu verras Jésus.
Avec la pluie de Michalak, c'est pas mal.
Si vous avez peur de vous embêter à Noël, n'hésitez pas.
Faites
tourner.
Cheminée.
Ça évitera les discussions qui s'enflamment, les querelles.
Je sais jamais quoi raconter.
Philippe Jaroussky vient de dire une space bûche. C'est très drôle.
Space bus, ça peut être une idée. Il faudrait souffler à Christophe Michalak.
Ce sont des gens bien.
Oui, ce sont des gens bien, Stéphane. Vous avez raison. Tout le monde se moque des candidats de Secret Story, mais c'est très injuste car en réalité, ce sont de belles personnes. Par exemple, il y a une candidate qui a vraiment le cœur sur la main. C'est ce que nous a dit son camarade. Bon, évidemment, il l'a dit avec ses mots.
Il y a des trucs que j'accroche pas. D'accord. Et que j'accrocherai certainement jamais. Mais il y a d'autres trucs. Fanny, qu'elle a le cœur dans la bouche, vous l'avez remarqué.
Le cœur dans la bouche, il faut qu'elle consulte au plus vite. Abonnez-vous, hein. Remonter l'organe. C'est le contraire d'une descente d'organe. Oh,
et où est sa main si elle a le cœur dans la bouche?
Il veut dire quoi?
Pas qu'elle avait le cœur sur la main.
Elle l'a dans la bouche.
Ouais, c'est un peu le bordel. Faut aller voir un kiné parce que là, c'est plus monté dans le bon ordre.
Très physique. Mais c'est tellement plein de poésie.
Oui, sur la bouche. Peut-être qu'elle a des haut-le-cœur très prononcés.
Vous voyez, des haut-le-cœurs.
C'est ça.
Ouais, et donc, c'est que vous avez perdu des mots de haut. Non, mais quand vous avez des haut-le-cœurs, le cœur remonte dans la bouche.
C'est vrai.
C'est
terrible. Hein.
Le cœur au bord des lèvres.
Et après, les gens montent sur leur grand cheval, vous voyez, c'est là. Bon, j'en connais un autre qui a le cœur sur la main, enfin sur une main. L'autre, on sait maintenant qu'elle est très baladeuse, c'est Bruno Le Maire. France 3 nous a rappelé ses écrits parfois très érotiques. En plus, ça a l'air tout coincé, mais en fait, c'est un chôle, Bruno.
Mais il y a un autre livre étonnant. Le ministre. Celui où Bruno Le Maire raconte son expérience auprès de Dominique de Villepin et où il ose un passage qui fera jaser. Mes remords de la nuit continuent de s'effacer. Déjà ce matin, ils étaient moins vifs quand je me laissais envahir par la chaleur du bain, le savon de tes verres et la main de Pauline qui me caressait doucement le sexe.
Pauline, c'est donc comme ça qu'il appelait Dominique de Villepin.
Non, c'est ça.
Ah, pardon. Ah, vous pensez que c'est pas... Ah,
non,
d'accord.
Pauline, elle existe.
Je suis presque déçu.
Elle lui passe un savon.
Pauline aimait bien Popol.
Il y a un autre livre. Il y a un autre livre assez gênant pour Bruno Le Maire en ce moment. Pas que pour lui. C'est celui, vous savez, sur les relations qu'entretiennent les politiques français avec le Qatar. De nombreux responsables politiques sont accusés d'avoir profité de quelques cadeaux de nos amis qui rachètent tout encore plus vite qu'au Monopoly. Et alors, parmi les cadeaux cités, il y en a un qui concerne justement Bruno Le Maire.
Il a vendu la montre.
Oui. Alors, explication pour ceux qui ne connaîtraient pas dans l'émission d'Yann Barthès.
Bruno Le Maire aurait reçu lui une montre à 85
000 euros. Et ministre de l'Agriculture, l'émir Ahmad vient à Paris, il est chargé Bruno Le Maire de, à la fin, lui faire une petite visite de Paris. Non. Faire une petite visite de Paris, 4 heures, et à la fin, il reçoit une Patek Philippe de 85 000 euros. Et donc, il la met au coffre du ministère de l'Agriculture, et Bruno Le Maire, quand on l'a vu en juillet, nous a dit, j'espère qu'elle est encore au coffre du ministère de l'Agriculture. Et alors, espérons qu'elle y est encore.
Ben non, elle n'y est plus.
On a appelé.
On a appelé le ministère de l'Agriculture, et cette montre n'y est plus.
Ah, ben alors, elle a été prise par quelqu'un.
Et c'est qui, quelqu'un? Stéphane, vous aviez la chemise retroussée tout à l'heure là. C'est bizarre, vous l'avez
ravisé. J'ai pas de montre.
C'est étrange.
Non mais, elle a été retrouvée dans un musée public où on met les cadeaux, je crois.
Regardez bien en tout cas qui ne retrouve plus ses manches après cette information.
Et on termine avec un homme meurtri.
Oui, Régis, c'est bien. C'est bien ce que vous avez fait. Oui, parce que je le sais, c'est bien vous qui avez écrit à la quotidienne de France 5 hier, sous le pseudonyme de Carole.
Gérard, question de Carole. Mon patron m'envoie tous les week-ends des photos de lui en slip sur mon téléphone. Je suis très gênée, mais je sais pas quoi faire parce que j'ai peur de perdre mon poste. Si je me plains de son comportement, que dois-je faire?
Bravo Régis, vous avez eu raison. Et il est temps que ça sache. Ça ne pouvait plus durer.
Comment les gens peuvent écrire des choses pareilles?
Vous m'avez percé à jour.
Comment les gens peuvent envoyer des photos d'eux en slip, surtout?
Je demande.
Enfin, les patrons.
Oui, les patrons. Enfin, pourquoi en slip?
Ouais, qu'ils enlèvent tout. Qu'ils enlèvent tout en café. C'est vrai. C'est un peu petit bras, enfin, j'ose dire.
Merci beaucoup, Éric Dussard. Allez, à demain. On va retrouver dans un instant non seulement notre invité Philippe Jaroussky, toujours son album, Téléman et Bach, les cantates sacrées, mais aussi Oldelaf qui va interpréter une chanson avec un invité surprise. Allez, RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
Parole.
Écoute-moi, c'est étrange.
Parole Oldelaf.
Parole Oldelaf.
Bonjour à tous, bonjour Stéphane et bonjour Philippe. C'est un grand honneur de recevoir aujourd'hui une des plus belles voix françaises. Vous avez une tessiture exceptionnelle, hein, Philippe, puisque vous pouvez chanter des notes, je crois, allant du sol en bas de la clé de fin au la, en haut de la clé de sol pour les musiciens. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Voilà, avec l'aisance et la virtuosité qu'on vous connaît. Alors, le mot tessiture, tout le monde ne le connaît pas forcément. C'est l'ensemble continu des notes qui peuvent être émises par une voix de façon homogène. Par exemple, Patrick Coutin, dans J'aime regarder les filles, se balade aisément du sol 3 au fa 3. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. C'est homogène. L'ancien chanteur Renaud, lui aussi, nous a proposé hier soir, lors de son retour au Zénith de Paris, une mise en revue complète des notes qu'il peut produire dans la mer à Titi. C'est opté chez la mer à Titi. Voilà. Alors Philippe, comme j'apprécie spécialement votre travail, j'ai un petit cadeau pour vous aujourd'hui. J'étais avant-hier en train de faire des courses au H&M de Belle Épine et figurez-vous que j'ai croisé la roue de quelqu'un d'exceptionnel. C'est Alain Berthier, un des vendeurs qui m'a dit par hasard qu'il avait lui aussi une tessiture hyperlâche. Alain est là pour vous, Alain Berthier s'il vous plaît.
Bonjour à tous et bonjour Philippe.
Non, pas de familiarité Alain. Je crois qu'on a tous envie d'entendre votre voix fantastique. Est-ce que vous nous feriez l'honneur et le plaisir de chanter un petit quelque chose?
Justement à ce sujet, je crois qu'il y a eu un petit malentendu parce qu'en fait je suis pas du tout chanteur.
Si vous m'avez dit que vous aviez une tessiture XL.
Ah non, on s'est pas compris. Moi j'avais dit que j'avais des ceintures XL. Et en fait, vu votre gabarit, on n'avait pas tellement le choix.
Ok, alors c'est très embarrassant. Vous savez que j'ai fait des pieds et des mains pour vous faire venir ce matin.
Je suis vraiment désolé. Mais par contre, j'ai ramené les ceintures pour
non,
vous.
Non, arrêtez. Je dois faire une chronique musicale. Donc c'est trop tard, vous allez chanter. Hein, je suis désolé.
Mais je vais chanter quoi?
Vous devez bien connaître une chanson avec une tessiture exceptionnelle.
Ah bah non, moi je suis pas Laetitia Castra. Hein. Je connais peut-être un petit truc, mais pas hyper bien.
Ce sera parfait Alain. De quelle chanson s'agit-il?
Alors c'est une chanson de Patrick Balavoine.
C'est Daniel Alain. Daniel Balavoine. Mais ça reste un très beau choix. Quel titre de Balavoine vous allez nous faire?
Alors je voudrais vous chanter Sauce d'intérieur en détresse.
C'est SOS Alain.
Ah ouais. Non mais c'est parce que je croyais que ça s'écrivait comme ça se prononce.
Mais c'est le cas en l'occurrence. Mais bon, c'est pas grave. On peut en profiter pour d'ailleurs pour saluer Daniel Balavoine qui est quand même la seule personne à avoir réussi à disperser lui-même ses cendres dans le désert. Alors Alain, on vous écoute.
Alors c'est peut-être un petit peu haut pour moi. Il y aurait moyen de baisser un peu la tonalité.
Non, c'est pas possible. Je la connais que comme ça.
Des fois je vis, des fois non, je
meurs. C'est pourquoi là, c'est pourquoi.
Pourquoi je ris, pourquoi je pleure.
C'est précis un texte. Hein.
Voici le sas.
SOS.
D'un terrien en détresse.
J'ai jamais eu les pieds sur terre. Je suis mal dans ma peau.
Ouais, nous aussi Alain.
Oh, le grand loto de l'univers. J'ai jamais tiré mon numéro.
Ouais, nous non plus Alain.
Dodo l'enfant d'eau.
Il n'y arrivera pas. Voilà. Bon, on arrive au moment quand même assez crucial du deuxième couplet Alain. Ne nous décevez pas.
Tout autour de moi, des carcasses qui flambent.
C'est pas ça.
Je vois des minois et des gens qui tremblent.
Des minois?
Oui, des minois, c'est les gens qui vivent dans la ville de Mine.
Okay. Vous faites peur là.
Qui sont ces gens? Tout autour de moi, tout autour de moi. J'aurais jamais dû prendre un hélicoptère avec un siège éjectable. Non mais quelle drôle d'idée. Non mais quelle drôle d'idée.
Alain, je ne vous suis pas là.
J'aurais dû écouter le pilote quand il m'a dit de pas appuyer sur le bouton. Mes bras on dirait des tranches de saucisson. Des tranches de saucisson.
Mais vous ne respectez rien.
Ma carrière est brisée, merci Alain.
Oui. C'était Old Olaf avec Alain son complice. Oui. Ah non mais c'est bon.
C'est aussi un contre-ténor, voilà.
Très contre.
Philippe, elle est très dure cette note de Balavoine.
Je crois que c'est une des chansons les plus difficiles à chanter. Hein, c'est toujours,
sauf pour vous.
Sinon, c'est très très difficile cette chanson.
C'est qu'il faut passer de la voix à la voix de tête.
Non, mais c'est surtout que Balavoine ne passait pas en voix de tête. Il restait en cette voix de ténor sur aigu. Et c'est ça qui fait toute la force aussi. C'est incroyable.
Et ce répertoire pop, justement, ça vous a jamais tenté?
Pour l'instant, jusque-là, pas trop. Mais enfin, j'ai chanté une chanson de David Bowie au Proms au mois d'août. C'était un peu bizarre d'être là. Et puis peut-être dans le futur, il y a quelques surprises. J'ai enregistré avec un artiste français. Et j'espère que le titre va sortir, par contre.
Ah oui, mais on ne le dit pas.
On ne le dit pas. Non, il faut,
oui. Vous écoutez RTL.
Moi, président de la République.
Si j'étais président.
Moi, président de la République.
Moi, président de la République. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République?
Ce que je ferais?
Oui.
Ce que je ferais, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de programme. Je ferais un peu au feeling. Hein? Pourquoi pas finalement au feeling,
c'est pas mal. C'est pas mal, bien sûr. Et vous auriez un slogan?
Ça changerait pas grand chose.
Je sais pas, un slogan peut-être, la France en chantant, tiens. Il y a toujours la France dans les slogans,
vous avez remarqué? C'est vrai.
La France en chantant, tiens.
Si vous étiez président, vous habiteriez à l'Élysée ou plutôt chez vous?
Je me dis que peut-être je pourrais être le premier président qui se décentralise.
Oui.
C'est-à-dire tous les 3-4 mois, je changerais de ville. C'est peut-être pas mal,
c'est
ça.
Bien, oui. C'est bien sûr.
Ça changerait un peu. Parce qu'on dit toujours que tout se décide à Paris.
Ils sont loin en plus de.
Oui, loin des réalités du pays, bien sûr.
Et alors, qu'est-ce que vous auriez comme une chanson phare ou. Qui soit emblématique de votre mandat.
Ah, j'ai pensé à une chanson tout de suite, je sais pas pourquoi.
Oui.
Une chanson qui parle aux Français, qui fasse rêver les gens.
Oui.
Et j'avoue que j'ai toujours rêvé de chanter cet artiste à la radio.
Ah bah vous voulez la chanter pour
moi? Ouais, une chanson de Céline.
Céline Dion.
Et en plus elle a gagné l'Eurovision avec en 88.
Ah bah oui.
Et si vous voulez, je vous ferai un petit bout.
C'est un petit
fantasme à moi.
Génial.
Voilà.
Ah oui.
Alors.
Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez en rêve, vous donnez-moi ma chance, emmenez-moi loin d'ici, ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre, vous qui volez vers d'autres villes. La plus belle aventure, les plus beaux voyages, qui mènent un jour sur des soleils, sur des planètes d'amour.
Voilà. Waouh, la magie du direct, on a le chef de poule.
Je l'ai fait.
Elle avait gagné pour la Suisse en 88.
Pour la Suisse en 88.
On vous met une perruque, vous représentez la France à l'Eurovision, vous remportez.
Ah, c'était la même prochaine.
Ah oui, avec un pseudo. Même tonalité que Céline Dion. On va voir Céline.
Elle est tellement contente.
Adieu Céline. Elle a trouvé sa doublure. Au revoir Céline.
Bye bye Vegas.
J'ai pour aller à Las Vegas, c'est bien.
On a retrouvé un remplaçant à René.
Bravo en tout cas.
Et je peux vous dire quand on est à côté, ça.
Ah ouais, ça pulse. Ça pulse, hein.
Ah oui, oui. On s'envoie de la bûche.
Oh bah Céline aussi quand même.
Ouais, mais on l'a pas souvent à côté de nous. Allez, on va retrouver Philippe Jarouski dans un instant. Je renvoie. Vous sentez que la beauté quand même de cette voix qu'on retrouve dans les cantates sacrées de Bach et de Telemann dans cet album Erato. Et puis on va retrouver évidemment Patrice Carmouze, son test à l'aveugle de chansons dans un instant pour gagner un très beau séjour avec weekendesk.fr.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, nous jouons évidemment pour un week-end au masque des herbes blanches. Relais Château en Provence, un cadeau sublime offert par weekendesk.fr, spécialiste des courts séjours sur Internet. Et là, c'est avec un dîner au restaurant gastronomique avec le chef Xavier Burel. Et si vous ne gagnez pas, bien le perdant gagne 1 kg de chocolat Jeff de Bruges, ainsi que 2 places pour le salon du chocolat. Porte de Versailles à Paris.
Alors, vous jouez pour Isabelle.
Moi, je joue pour Isabelle avec mon ami Philippe Jarouski. Et vous, le reste du monde, vous jouez pour Reynald.
Alors, ce sont des chansons dont la musique est de la musique classique. Donc, il faut trouver qui chante, mais qui est aussi le compositeur de la chanson.
Ah, moi, je fais qui chante.
Alors,
bon, genre Balavoine Beethoven.
On commence par équipe SB contre Edouard. Voilà.
Birkin.
Ouais, après.
Birkin.
C'est du Brahms, non?
Oui, c'est du Brahms,
oui, absolument.
C'est la
troisième symphonie de Brahms.
Ouais.
Salut.
Tu gardes très bien. Il y a
beaucoup de musique classique. Gainsbourg.
Ouais, c'est pas pour Eric. Hein,
je peux avoir l'interprète, c'est tout.
Ouais. Alors, on va continuer. Bah, toujours Gainsbourg, qui a beaucoup oui. utilisé de musique classique. C'est Contrôle de l'AF, là.
Ah oui. Non, ça, c'est Chopin.
Chopin.
C'est ouais. Chopin, oui.
Ouais. Ouais. Étude de Chopin pour piano.
Les moments célestes, absolument. L'étude numéro 3.
Il en a beaucoup hésité, du Chopin. Oui.
Mais parce qu'il avait une culture, il avait été
une culture classique, bien sûr.
Une culture classique.
Oui, il était pianiste de bar, au moment aussi.
Alors là, c'est une chanson qui a été. Les paroles sont de son papa. Et c'est une de ses premières chansons, mais c'est regarder. Aussi.
Vous êtes le père.
Parce que vous la connaissez, vous la connaissez, ah, la chanteuse, mais la musique classique, c'est de qui? Alors c'est contre Régis. Chante en cette
France Gall.
Oui.
Ah, l'adagio de
oui.
Dinoni.
Oui.
Ah
oui.
Bravo. Donc un point partout. Ah,
et c'était ça, une de ses premières chansons composées par son père. C'était votre ami France Gall.
J'ai bien de la chance de la connaître.
Eric, vous y collez?
Il est parti. Il est plus là. Vous n'avez pas dit, il est parti.
Allez Eric, c'est pour vous. Allez.
Ah, Rousseau. Demis Roussos.
Demis Roussos.
Oui, Jésus. C'est pas parce que vous mangez la bonnette que vous
mais,
avez.
Mais la musique classique.
Oui. C'est André Rieu.
Non, pour Rieu.
Pachelbel.
Oui.
Pardon.
Comment vous dites?
Pachelbel.
Mais j'allais le dire.
Pachelbel.
C'est le canon de Pachelbel.
Canon de Pachelbel, voilà. Absolument.
Mais évidemment. Mais c'est Demis Roussos avant tout.
Donc le point est à nous.
Ça fait trois partout. Trois partout. Attention, Edouard, c'est pour vous face à l'équipe SB. Mais là, j'ai peur qu'il y ait une petite avance pour Stéphane. Mais enfin, on ne sait jamais. Bah...
Verdi Mouski. Verdi Mouski. Elle nous fait une moussaka, là, avec ça. C'est pas possible. Hein.
Alors... Attendez, vous pouvez vous attaquer à tous les symboles, mais pas à Nana Mouskouri.
Ah, c'est bon, on peut y aller sans Mireille Mathieu.
Bah non, si je dois choisir.
Mais vous avez pris la plus riche, comme par hasard.
Alors, là, ça va être très facile de reconnaître la musique classique, puisqu'elle en parle. Donc, qui chante ça, mais.
Bach.
Ouais.
Moran.
C'est ça que je voulais.
C'est le prélude. Le prélude.
Moran Bach, c'est tout. Non, mais.
Arrêtez de regarder.
Mais je regarde quoi?
La trice cachée un jour, vous
savez. Cachez votre sein.
Oh!
Cachez ce sein que je ne saurais voir. Bah, Régis, concentrez-vous là, parce que là, il faut me dire quelle est la musique classique, parce que c'est très amusant, je trouve.
Tout l'amour que j'ai pour toi.
C'est Dario Moreno.
C'est Dario Moreno, oui.
Dario Moreno, oui. Mais...
Ah, c'est la lettre Alice.
Oui, absolument.
Ah, c'est génial.
C'est génial. C'est ça que c'était la lettre Alice.
Ah, bah oui. On n'y pense jamais à ça, oui, mais.
En fait, la différence, c'est que Philippe Jansky, vous écoutez les notes, vous, et que ce...
oui,
ça vous comprenez
un peu. Non, mais nous, c'est très drôle, je trouve.
C'est aussi connu l'un que l'autre.
Oui, oui, absolument. Mais comme le rythme n'est pas le même.
Ah, c'est dingue.
Pour vous dire, moi, j'étais sur l'île Puget. Niveau de lecture.
Alors, ça fait 5 partout.
Bon, ça aussi, ça va être très facile de reconnaître. Merci. Le compositeur
tout
classique.
Monde a...
C'est pour Régis.
Bah, c'est Schubert.
Non, les Schubert.
Les frères Jacques.
La truite.
La truite.
La truite, bien sûr.
Die Vorle von Schubert.
Absolument.
Kraut. 6 par
2. Ça fait combien?
6 par 2.
C'est très simple,
c'est
ça.
C'est Pierre Dac hein, qui l'avait reprise.
C'est Francis Blanche, je crois, qu'il
Francis
avait
Blanche,
écrit.
Oui. Oui.
Ça, c'est très facile. Donc, même vous,
ça,
vous pouvez reconnaître la musique classique là-dessus, parce que...
La Massana.
Beethoven.
Non, mais cherche à qui chante.
Blanche. Cinquième de Beethoven.
Blanche. Francis Blanche et Pierre Dac, non?
C'est deux Francis Blanche et c'est les quatre barbus.
C'était donc très facile.
Donc voilà, c'est Isabelle.
C'est Isabelle.
Qui... Grâce à l'équipe SB.
Et grâce à Philippe, j'ai aussi
Philippe, alors, oui.
La lettre à Élise.
La lettre
de Dario Moreno.
C'est qu'on connaît ce morceau sans penser que ça allait être
Élise. Absolument. Bah écoutez, voilà, c'est superbe.
Merci. Donc c'est Isabelle qui gagne ce séjour.
Et Reynald gagne le chocolat.
Le chocolat pour Reynald. Absolument. D'accord.
C'est terrible.
Et les places pour le salon Reynald, du chocolat.
Vous pouvez écrire à la radio. Hein. J'envoie du papier bleu. Hein, mais...
Merci en tout cas, Philippe Jarouski.
Merci à vous.
Avec le Freiburger Baroque Orchestre. Il a enregistré Bach, Telemann, les cantates sacrées. Superbe. Et puis le 29 à Lyon, 29 novembre, et le 3 décembre au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Merci d'avoir été avec
merci
nous.
Beaucoup,
c'est toujours une joie de vous accueillir. Dans un autre registre, demain, nous allons parler de Born to be Alive avec Patrick Hernandez. Merci à tous de nous avoir suivis. Oh, j'ai encore un peu de temps, mais quel bonheur.
On peut écouter Céline Dion peut-être un petit peu. Ah ben...
C'est une chanson de fin en plus.
Toi, le
pas de Philippe, Philippe. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Philippe.
Non, c'était Philippe. La promotion de Céline Dion, c'est génial.
Vous avez amené votre orchestre.
Il a relevé le défi de chanter Céline Dion. Ce matin, il s'est levé, il s'est dit bah, qu'est-ce
mais
que je vais faire.
Peut-être qu'elle va entendre et va m'appeler pour faire un duo dans son prochain spectacle.
Génial,
pourquoi pas.
C'est génial. Bah, Céline, voilà, si tu nous écoutes, il est lent. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. À demain. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.